C'est à l'architecte Scuter que l'on doit l'édification de la cathédrale. L'origine mérite d'être racontée. La Vierge serait apparue à une femme malade et fiévreuse qui s'était endormie, épuisée, sur le rocher. Elle se réveille en parfaite santé et la Vierge lui apparaît en lui demandant de faire construire une église. Saint Georges, l'évêque du Velay, alerté, se rend sur les lieux. Nous sommes au mois de juillet et le sol est recouvert de neige. Un cerf a dessiné de ses sabots les plans de l'église. Mais l'argent manque. Le bon évêque fait quand même planter une haie de buissons en attendant de lever des fonds. Le lendemain, la haie est toute fleurie, encore un signe. On attendra pourtant quelques manifestations divines supplémentaires avant de se mettre au travail. C'est l'évêque Vosy qui décide d'aller solliciter des fonds à Rome. Scuter, architecte romain, est chargé des plans. La première église est érigée entre 415 et 430. Une fois le bâtiment construit, ils se rendent à nouveau tous deux à Rome pour obtenir la consécration. Sur le chemin, deux vieillards leur enjoignent de retourner sur leurs pas, affirmant qu'ils se sont chargés de tout. En effet, à leur retour, l'église est baignée d'une lumière irréelle et les cloches animées par des êtres invisibles. Ce sont les anges qui ont consacré l'église. Mais revenons à des considérations plus matérielles. Le bâtiment a vu au cours des siècles de nombreux ajouts et aménagements qui témoignent de l'importance croissante de la ville. En tout, 14 rois, 6 papes et un bon nombre de saints sont venus sur ces lieux. Parmi eux, Charlemagne, Louis VII, Saint Louis et François Ier, qui en fut le dernier visiteur royal. Le pape Léon IX, Saint Antoine de Padoue et Saint Dominique ont contribué à la renommée du puits, un véritable Lourdes du Moyen Âge. Devant la foule et les visiteurs de marque, on agrandit l'église initiale en y ajoutant des bas-côtés et des travées. Une première travée, puis une seconde, rallonge d'abord l'édifice d'une vingtaine de mètres, mais la topologie des lieux ne permettant pas d'aller au-delà, les deux travées suivantes seront construites dans le vide au XIIe siècle. Pour compenser le dénivelé de 17 mètres, on construit la partie inférieure, celle où nous nous trouvons, qui est traversée par l'escalier d'entrée. L'arrivée par la porte principale se fera donc en plein milieu de la cathédrale. Depuis le Moyen Âge, l'édifice a connu destruction et réfection. À titre d'exemple, l'accès central par la nef n'a été que très récemment de nouveau accessible. Il a cependant vaillamment supporté les siècles et même la période trouble de la Révolution française, pendant laquelle la cathédrale est devenue momentanément temple de la raison. Sous le premier porche de la cathédrale, de chaque côté de l'escalier principal menant vers l'entrée, se trouvent les fameuses portes en cèdre. Elles sont en réalité fabriquées en pin de la région. Elles représentent au nord des scènes de la Nativité et au sud des épisodes de la Passion. Elles donnent accès aux chapelles Saint-Gilles à gauche et Saint-Martin à droite. Devant nous, tout en haut des escaliers, l'accès à la cathédrale se fait par la porte dorée, encadrée de deux fûts de colonnes égyptiennes en porphyre. Une pierre de décoration rare. L'escalier de gauche donne accès au cloître. Un accès qui est fermé puisque l'entrée se fait par la rue du cloître que nous découvrirons plus loin. Celui de droite nous permet d'accéder à l'intérieur de la cathédrale. Notre prochaine halte se situe maintenant à l'intérieur de la cathédrale. Nous nous y rendons par les escaliers et la porte dorée, ou bien, si cet accès est fermé, par l'escalier de droite.